Et on passe maintenant au vif du sujet. Je suis très heureux de rejoindre Outre-mer Emmanuelle Asman, présidente du Comité paralympique français, ancienne escrimeuse haut niveau, médaillée de bronze à l'épée aux Jeux paralympiques d'Athènes en 2004, qui a accepté de prendre quelques minutes. Je suis sûr qu'elle a un agenda très occupé ces jours-ci. Bonjour, Madame Asman.
Bonjour.
L'année en cours en est une assez importante, je suppose, pour vous, puisqu'en 2024, Paris va accueillir les Jeux olympiques et les Jeux paralympiques. Est-ce que vous pouvez me dire qu'est-ce que ça représente à vos yeux, l'organisation de ces événements?
Alors déjà, ça représente 4 ans de travail, puisque c'est vrai qu'on a, voilà, on a fait 2 ans de candidature active. Et puis, c'est vrai que ce qui était bien, c'est que autant le comité olympique que le comité paralympique, on était très investis autour de Tony Estanguet et Bernard Lapasset, qui étaient nos deux coprésidents qui portaient cette candidature. Et même au préalable, on avait réfléchi pendant une grosse année sur le fait de savoir pourquoi on y allait, pourquoi on serait candidat, parce que, comme vous le savez, on a subi quelques échecs avant. Et donc voilà, il fallait remotiver les troupes et puis surtout redonner du sens et donner du sens à cette candidature. Et c'est vrai que ce qui est important pour nous aussi, c'est qu'il y a forcément l'envie de réussir des Jeux olympiques et paralympiques magnifiques et avec une grosse célébration, que ce soit dans les stades, mais aussi hors des stades, dans la ville. Et puis dans les différentes villes qui vont accueillir aussi, on a Marseille sur la voile et puis les différents stades pour le foot. Mais surtout, voilà, de pouvoir offrir à tous, autant sur la partie olympique que paralympique, un vrai plaisir et une belle compétition. Mais on a aussi, et ça c'était important pour notre candidature, envie que ces Jeux soient un accélérateur de changement, et notamment sur la partie héritage. Nous, on a vraiment à cœur que ça fasse changer le regard sur le handicap, l'accessibilité autant sur les infrastructures sportives que sur les transports. Il y a un peu de boulot à Paris. Et puis aussi sur le fait que les Français et tous les Français, même ceux en situation de handicap, pratiquent un sport. Parce que moi, je l'ai vécu. Quand on a un handicap, le sport, c'est pas juste que du plaisir. C'est aussi un peu le certificat pour une autonomie conservée le plus longtemps possible. Et c'est sûr que entre le moment moi où je suis sortie de l'hôpital et où je faisais du haut niveau, j'avais regagné en termes de capacité et de compensation et d'adaptation avec ce nouveau corps qui présente pas les mêmes capacités, mais c'est vrai qu'un peu le propre de l'homme, c'est sa capacité à s'adapter et à pouvoir justement mettre en avant les capacités et pas tout ce qu'on peut plus faire.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer, de votre parcours sportif, vous avez vous-même pu être témoin de comment ça se passe, par exemple, à Athènes ou dans les autres grandes villes qui ont reçu les Jeux paralympiques? Est-ce que vous constatez qu'il y a une amélioration sur le plan des équipements accessibles puis de l'offre accessible en général aux citoyens handicapés?
Alors, c'est vrai qu'on a des pays qui partent de plus ou moins loin, ne serait-ce que même sur l'image de la personne en situation de handicap dans la cité, dans la société. C'est vrai que sur Pékin, on savait que les personnes en situation de handicap étaient plutôt cachées dans les familles, qui n'avaient pas forcément de métier, sortaient pas forcément beaucoup dehors, étaient un peu protégées et presque cachées.
Cachées, ouais.
Et que tout d'un coup, d'avoir des champions paralympiques, des champions paralympiques chinois, mais aussi de tous les pays, et de voir justement qu'ils étaient preuves de qu'ils pouvaient avoir des performances et que regarder des compétitions, c'était exaltant et inspirant. Ça fait qu'ils ont changé ce regard-là, et on sait bien que tout d'un coup, il y a ces champions-là qui ont été des ambassadeurs et qui ont permis à des personnes en situation de handicap d'aller chercher du travail, de sortir dans la rue. Après, il y a eu des efforts en termes d'accessibilité, ce qui est jamais simple, et ça sera un peu notre challenge, c'est que ces efforts en termes d'accessibilité soient pérennes. C'est-à-dire que ça soit eu pas uniquement pendant la quinzaine olympique et paralympique, mais que tout ça soit un peu de façon durable. Alors,
c'est un peu
Athènes,
le propre
ils ont mis
des...
un ascenseur pour monter au Parthénon. Il y est toujours, donc c'est quelque chose qui reste.
Ouais. C'est un peu le propre du défi de l'organisation des Jeux olympiques, j'ai l'impression, de ne pas laisser en désuétude par la suite, par exemple, des grands stades. Donc, si je comprends bien, vous allez travailler sur deux axes. Donc, un, vous espérez que ça ait un effet positif sur la perception du handicap, mais aussi concrètement sur le plan architectural, que ça ait des retombées. Est-ce que vous pouvez me donner des exemples? Est-ce que ces retombées architecturales, ça va seulement se mesurer en termes de stades accessibles et de piscines accessibles, ou on pense aux citoyens qui ne sont pas nécessairement sportifs aussi?
Eh bien, justement, en fait, c'est vrai que ce projet-là qui est parisien, et français, c'est vraiment la spécificité, c'est qu'on a 95% des infrastructures qui sont déjà construites. Donc, on peut évidemment pas avoir vraiment cette problématique d'éléphant blanc puisque les stades sont construits. On va faire des rénovations, on va de temps en temps faire des adaptations. Il y aura des sites temporaires. Et la seule grosse infrastructure qu'on va se construire, c'est une piscine. Et donc, cette piscine sera forcément accessible et il y aura tout un enjeu après de l'utilisation au quotidien. Mais une piscine en Seine-Saint-Denis, c'est important pour nous et on en a besoin. Maintenant, toute la partie qui est sur les transports, donc ça fait partie aussi d'une vraie problématique que nous, on a en France et encore plus en région parisienne, autour de Paris, c'est que pour l'instant, en dehors des bus et du tramway qui a été mis en place, le métro historique qui est sous terre, donc il n'est pas accessible. Et donc on essaie de voir comment on va pas rendre tout le métro parisien accessible. Faut pas non plus se dire que les jeux peuvent faire des miracles, mais par contre c'est comment on commence à construire le fait d'avoir quelques stations un peu stratégiques pour des pôles d'échange, et donc ça aussi sur l'information qui sera donnée, parce que on voit bien la différence peut-être avec Londres, c'est qu'ils n'ont pas mis tout leur métro accessible, mais il y avait des stations et surtout il y avait des plans très clairs pour savoir quelles étaient les stations qui étaient accessibles ou pas.
Parce que ça, c'est une bonne nouvelle, parce que dans les dernières années, quand j'entendais parler du métro parisien, ce que j'entendais, c'était on va vraiment comme laisser ça de côté et se concentrer sur le réseau de surface et les autobus. Mais là, vous me dites qu'il y a de plus en plus une volonté de rendre accessible partiellement certaines stations?
En tout cas, Paris 2024 a rouvert un peu cette porte-là. Nous, pour l'instant, on a le pied bloqué dans la porte. Je ne dis pas que c'est acquis. Je dis juste que si on n'y arrive pas maintenant, on n'y arrivera jamais. Et donc, du coup, c'est vraiment ce fait d'utiliser les jeux comme ce vecteur qui va permettre de dire « Eh, c'est maintenant ». Et quitte à ce qu'on ne soit pas prêt enfin, que ce soit qu'un début, qu'en 24, il n'y en ait que 3, 4, j'en sais rien. Mais on ne dit pas qu'il faut que tout soit fini en 24, la vie continuera après, justement, parce que l'important, c'est que ça déclenche des choses. Donc, on a cette volonté, cette bataille-là, un peu chevillée au corps sur le mouvement paralympique, de dire c'est quelque chose sur lequel on va essayer de se battre. C'est des gros investissements en termes financiers. Et c'est vrai que souvent, ce qu'on nous répond, c'est que ce n'est pas beaucoup de volume de personnes concernées. Par rapport au fait de désenclaver toute une région qui n'aurait pas de transport rapide et accessible. Mais ce qu'on dit aussi, c'est que finalement, on parle souvent d'accessibilité universelle. Et donc, si on met un ascenseur pour atteindre une station de métro, ce n'est pas uniquement les personnes en fauteuil qui, elles, sont de fait exclues s'il n'y avait pas d'ascenseur. Mais les personnes âgées, on sait bien que passer à un moment donné, quand elles ne sont pas un peu moins solides sur leurs jambes, elles ne prennent plus le métro parce qu'elles ont trop peur. Il y a trop de flopées de marche, il y a trop de chemins un peu difficiles. Si on a des bagages, si on a une poussette, si on a une difficulté momentanée, on sait que la problématique l'ascenseur dans les stations qui en ont, c'est pas majorité les personnes handicapées qui l'utilisent. Et donc, est-ce que le progrès, c'est justement pas de faire que on facilite la vie à tout le monde? Et donc, souvent, on parle de personnes handicapées, mais l'accessibilité universelle, c'est vraiment comment on fait que ce lieu soit partagé par tous. Et on a un vrai progrès là-dessus avec une volonté partagée d'ouvrir la cité à tous, mais cette accessibilité universelle, elle n'est pas que pour les personnes handicapées.
L'exemple de Londres que vous avez soulevé est intéressant parce qu'effectivement, de ce côté-là, tout n'est pas parfait, mais depuis qu'ils ont organisé les Jeux olympiques, paralympiques, même le métro s'est mis en accessibilité depuis ce temps-là. Vous, est-ce que vous aviez déjà visité Londres, Emmanuel Asman?
Oui. Du coup, moi, j'étais aux Jeux de Londres. J'avais été quelques fois auparavant plus professionnellement, mais c'est vrai que, en fait, c'est ça qu'ils n'ont pas rendu tout le métro accessible, mais par contre, l'information est très facile à avoir. Parce qu'on dit aussi, c'est que, par exemple, là, on parle des personnes en fauteuil roulant, mais les personnes non-voyantes, les personnes handicapées mentales, les mal-marchants, souvent, c'est pas forcément un besoin d'infrastructure, de construction, mais c'est de l'information. C'est de la formation des gens qui sont dans le métro. C'est-à-dire, est-ce qu'on met de la panoptique et de la signalétique un peu plus grosse, avec une couleur qui est simple pour des gens qui pourraient avoir des difficultés de compréhension, comment on sait qu'à cet endroit-là, on aura quelqu'un qui va pouvoir nous aider, comment on sait qu'à cet endroit-là, on pourra sortir ou pas de la station. Et donc, ce qui nous manque aussi cruellement, nous, là, en France, et qui est très, très bien fait en Angleterre, c'est l'information simple et accessible très facilement pour pouvoir dire, ben, parce que souvent, moi, je le dis, la problématique qu'on a, nous, c'est qu'on ne sait pas si les lieux sont accessibles ou pas. Et que maintenant, comme on a peu d'interlocuteurs, souvent, c'est sur Internet qu'on va voir les informations où il y a des répondeurs. Et puis, souvent, on voit bien quand c'est accessible aux animaux, quand la station la plus proche, mais on ne voit pas s'il y a une accessibilité voilà, à tel type ou tel autre type de handicap. Et donc, c'est comment, justement, on va trouver de l'information simple. Mais ça, c'est valable pas uniquement pendant les Jeux Olympiques et Paralympiques. C'est valable pour les touristes qui viennent à Paris. Mais pour moi aussi, qui y habite et quand j'ai envie d'aller dans un musée ou au cinéma ou au restaurant, j'ai envie de pouvoir me dire, ah bah tiens, je vais quelque part et je sais que ce restaurant ou ce café-là ou ce cinéma-là, je vais pouvoir y aller en fonction de mon type de handicap.
Ouais, d'avoir l'information.
Et donc là, là-dessus, il y a du boulot.
Très bien. Puis, ben, en terminant, puisque le temps file, est-ce qu'un mot sur les attentes, disons un peu plus sur le plan sportif de l'équipe française? J'imagine qu'on va vouloir offrir une bonne performance en 2024, puis que les Jeux de 2020 aussi à Tokyo sont très importants pour vous.
Ah ben alors nous, on est en pleine préparation des Jeux déjà de Pyeongchang en 2018. Avec, on a fait notre J-100 là en annonçant le porte-drapeau Marie Bochet, notre skieuse. Et donc voilà, on travaille et on espère faire un beau top 5 à minima pour ces Jeux de Pyeongchang. Forcément, Tokyo est sur la route de 24 et donc on va essayer de construire une équipe de France paralympique avec les fédérations, notamment parce qu'il y a des sports sur lesquels on n'a encore jamais qualifié d'équipe de France. Je parle du volet assis, je parle du goalball. Et donc on a vraiment aussi, nous, tout un gros travail de détection et de préparation justement à emmener des équipes à l'international. Mais après, on a aussi les sports sur lesquels on est depuis longtemps et sur lesquels il faut qu'on aille chercher des jeunes, qu'on les prépare d'ores et déjà. Donc peut-être qu'on construira une équipe de France paralympique un peu plus grande. On en avait 126 athlètes à Rio, un peu plus grande pour préparer cette échéance, c'est vrai, de Paris 2024. Et c'est vrai qu'en ce moment, nous, on travaille beaucoup avec le ministère des Sports pour justement construire et une préparation pour la partie haut niveau, mais aussi, je le disais, une nation qui est un peu plus sportive et donc développer le nombre de pratiquants en situation de handicap en France. Parce que là aussi, on a un vrai challenge à remplir et faut qu'on utilise ce beau vecteur d'accélération que sont les Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024.
Merci beaucoup, Emmanuel Assmann, d'avoir pris le temps de nous parler
merci
aujourd'hui.
Merci à vous, j'étais bien contente d'échanger avec vous.
Pareillement.
Et puis, je souhaite aussi bonne chance à l'équipe de France olympique et paralympique canadienne.
Bien sûr. Merci beaucoup. Merci.
Au revoir.
Au revoir.